13 minutes d'allocution, en effet, pour tenter d'éteindre le feu des gilets jaunes. Hier soir à 20h, le président de la République s'est donc exprimé pour annoncer quelques mesures à destination notamment des bas salaires et pour faire acte de contrition, tout en gardant le cap général de sa politique. Nous y reviendrons largement dans ce journal avec l'analyse de Frédéric Saïs et les premières réactions.
Et puis au Royaume-Uni, Theresa May a elle aussi essayé d'éteindre l'incendie provoqué à la Chambre des communes par l'accord négocié avec l'Union européenne sur le Brexit, accord qui devait être voté aujourd'hui au Parlement britannique devant la probabilité d'être désavoué. La Première ministre a préféré reporter ce vote.
Et nous irons à Londres avec Antoine Gignot. Et puis à Katowice, en Pologne, la COP24 se poursuit. Une délégation américaine a tenté hier de vendre l'idée d'un charbon propre. Elle s'est faite huer, nous dira Véronique Reberotte. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, la question du jour, Anne-Laure, quels sont les enjeux du pacte de Marrakech? On posera la question à Yves Pasquebot. Il est directeur de l'European Migration Law.
Aura-t-il éteint la crise? On le saura sans doute dans les prochaines heures, voire les prochains jours. En attendant, le président de la République a, comme promis, pris la parole hier dans un discours d'un petit quart d'heure pour annoncer une série de mesures destinées à redonner un peu d'air au pouvoir d'achat. Un discours qui pouvait aussi s'apparenter à un mea culpa, même si sur certains points, l'ISF ou le CICE, Emmanuel Macron n'a pas changé de position. L'effort que le président de la République inscrit dans ce qu'il appelle un état d'urgence économique et sociale portera notamment sur les bas salaires, donc et les retraités. Écoutez-le.
Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Sur ce point, nous sommes allés trop lentement. Je veux intervenir vite et concrètement sur ce sujet. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste. Que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versés sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important. Et il n'était pas juste. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires.
Emmanuel Macron, hier soir. Nous sommes en studio avec Frédéric Saïs. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons faire l'analyse de ce discours et de ses propositions avec vous, Frédéric. L'État va donc mettre la main à la poche de façon substantielle.
Oui, car cette hausse du SMIC, ce ne sont pas les entreprises qui la financeront, mais bien la solidarité nationale, autrement dit le budget de l'État avec la prime d'activité. Cette augmentation de 100 euros, c'était d'ailleurs une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui devait se réaliser progressivement au cours du quinquennat. Ce sera donc dès le 1er janvier prochain. Même chose pour la défiscalisation et l'absence de cotisation sur les heures supplémentaires. Ce sont les budgets de l'État et la sécurité sociale qui sont mis à contribution. C'est le cas aussi pour l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2000 euros. Les entreprises, elles aussi, sont invitées à faire un geste en versant une prime de fin d'année défiscalisée. C'est sur la base du volontariat. L'ensemble de ces mesures est estimé entre 10 et 12 milliards d'euros par an. C'est donc un effort substantiel. Un effort qui s'est doublé d'un mea culpa. Emmanuel Macron a reconnu, je cite, qu'il avait pu blesser certains Français par ses propos, allusion au pognon de dingue ou à l'emploi qu'il est facile de trouver en traversant la rue. Le président a donc pris la mesure de la double crise, celle du pouvoir d'achat, mais aussi celle de la confiance dans sa propre personne.
Alors peut-on pourtant aller jusqu'à dire qu'il s'agit là d'un tournant social?
Non, on ne peut pas aller jusque-là, il n'y a pas de changement de philosophie générale. Si l'on détaille, sur le SMIC, il accélère une mesure déjà prévue, sur la CSG pour les retraités, il décélère et il fait marche arrière sur l'un des mantras depuis le début du quinquennat, il n'y a pas d'argent magique. La situation a visiblement permis d'en trouver. Un mot sur les absences de ce discours, Anne-Laure. Il n'a pas été question de revaloriser les pensions à hauteur de l'inflation. Il n'a pas été non plus question du CICE, cette baisse de fiscalité pour les entreprises. Il n'y a pas eu non plus de réponse sur l'aspect du fonctionnement démocratique que mettent en avant beaucoup de gilets jaunes. Le président a simplement réitéré sa promesse d'un grand débat national décentralisé jusqu'au printemps prochain.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. Pas de mention non plus des lycéens. On vous retrouve à 8h17 pour votre billet politique Emmanuel Macron et les gilets jaunes ou le mouvement perpétuel. Alors beaucoup de réactions évidemment à ce discours d'hier. L'une des figures et initiatrices du mouvement des Gilets jaunes, la Bretonne Jacqueline Mourot, a estimé que le président de la République avait ouvert une porte, qu'il y avait des avancées. Elle a par conséquent appelé à une trêve. Il faut sortir de cette crise car on ne peut pas passer le reste de notre vie sur des ronds-points, a-t-elle ajouté. Pour d'autres Gilets jaunes, le président n'a pas pris la mesure de ce qui se passait. Côté politique, les oppositions ont jugé que le cap politique présidentiel avait été maintenu, et ce malgré la contestation. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, appelle à un acte 5 samedi prochain. Côté syndical, le leader de Force ouvrière, Yves Verrier, estime quant à lui qu'il y a un décalage entre le discours et la réalité des mesures annoncées. Écoutez-le.
Les termes sont forts, état d'urgence sociale, mais les mesures ne sont pas à la hauteur du terme d'état d'urgence sociale. Donc sur la fiscalité, j'ai entendu parler d'équilibre, par contre j'ai entendu parler également de services publics dans tous les territoires, mais dans le même temps, je n'ai rien entendu sur la pause sur les réformes qui vont à l'encontre de cela. L'ISF est maintenu en l'état. Très clairement, j'ai aussi compris que la réforme des retraites était maintenue en l'état. La réforme sur l'assurance chômage n'est pas entendue non plus. De mesures sur le point d'indice dans la fonction publique. Donc là, il y a un souci. Manifestement, on ne répond pas à la hauteur de ce qu'il nous semble nécessaire.
Yves Verrier de FO, changement de ton mais pas changement de fond, a estimé le député européen Yannick Jadot. Enfin, les Républicains déplorent, eux, une smicardisation, disent-ils, de la société. On reviendra sur l'analyse économique, notamment de ces mesures, dans le journal de 8h. On a appris hier que Bercy et le groupe franco-belge Altifort se sont mis d'accord sur un plan de reprise de l'acierie Ascoval dans le Nord. Après de longues semaines d'incertitude, l'État contribuera à hauteur de 25 millions d'euros à cette reprise, soit l'équivalent du montant consenti par le repreneur, annonce hier donc de Bruno Le Maire.
7h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Dans l'actualité internationale, c'est le Brexit qui est aujourd'hui au centre de l'attention après le report du vote du Parlement britannique sur le sujet. Un report annoncé hier par Theresa May et cette reculade rend le Brexit plus incertain que jamais, Anne-Laure.
Oui, la première ministre britannique a peur de se voir opposer un refus cinglant des parlementaires britanniques à l'accord donc sur le Brexit négocié avec ses voisins européens. Elle propose donc de retourner discuter avec eux pour leur faire remonter les inquiétudes, ce qui a provoqué la colère de ces parlementaires qui, eux, voulaient voter. Le reportage à la Chambre des communes du correspondant de France Culture à Londres, Antoine Gignot.
Sur les bancs, les députés parlent de trahison, d'humiliation, de situations chaotiques et ridicules. Amertume, y compris au sein de la majorité, résume Marc François, l'un des élus conservateurs.
Toute la Chambre des communes voulait débattre. Nous voulions voter. Les gens s'attendaient à ce que nous votions. Et le gouvernement s'est enfui pour aller se cacher dans les toilettes.
Car même si Theresa May promet d'obtenir de nouvelles concessions des chefs d'État européens, elle ne donne aucune date, aucune indication sur le report du scrutin. Un outrage de plus, lance Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche.
It cannot be right that the government can unilaterally
Le gouvernement ne peut pas unilatéralement décider de changer d'agenda sans même nous dire quand le débat reprendra. C'est vital. Le gouvernement doit traiter les parlementaires avec respect.
Des signes de cette colère qui traverse le Parlement, plus de 50 élus travaillistes réclament désormais une motion de défiance. S'il n'y a pas rapidement d'accord sur le Brexit, explique la Confédération du patronat, le pays risque de glisser vers une crise nationale.
Antoine Gignot, côté européen, une éventuelle renégociation provoque l'agacement. Le texte du Brexit n'est pas améliorable, estime notamment le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui n'exclut pas d'aider Theresa May à faire ratifier son texte via, par exemple, une déclaration commune. Le pacte mondial des Nations Unies sur les migrations a été adopté hier à Marrakech, un texte non contraignant qui avait été validé en juillet dernier par l'ensemble des 193 pays membres de l'ONU, sauf les États-Unis. Ce pacte recense 23 objectifs et précise que chaque État est libre de décider qui il souhaite accueillir. Il doit faire l'objet d'un dernier vote le 19 décembre prochain à l'ONU. À Katowice, en Pologne, la COP24 continue, et ce en présence d'une délégation américaine venue défendre hier le charbon propre. Les États-Unis, dont le gouvernement a, on le rappelle, refusé les alertes scientifiques sur le climat et s'est retiré de l'accord de Paris. Hier donc, une conférence américaine avait lieu sur la possibilité de produire des énergies fossiles propres. Une conférence qui a tourné court. Le reportage sur place de Véronique Rebérotte.
Le représentant de l'administration Trump se plaint depuis plusieurs minutes des contraintes sur son pays de l'accord de Paris. Il vante aussi à longueur de phrase le charbon propre quand sa prestation est soudainement interrompue par des rires dans la salle et des slogans. Laisser le charbon dans le sol, scandent des dizaines et des dizaines d'activistes de tout pays, comme le français Victor.
Là, on entend les gens à la fois à l'intérieur et à l'extérieur qui crient tous « keep it in the ground », c'est-à-dire « laissez-le dans le sol, laissez les énergies fossiles dans le sol ». On ne peut plus se permettre d'investir dans le charbon, ce que continuent à faire les États-Unis. Ils vont jusqu'à défendre ici l'idée d'investir dans le charbon propre et de continuer le charbon propre. Ça n'existe pas, le charbon propre. Puis il faut savoir que c'est le seul événement qu'organisent les États-Unis. Le message qu'ils envoient est particulièrement provocant et on est là pour justement très nombreux pour montrer qu'on ne va pas se laisser faire.
À l'ouverture de la COP24, le président polonais a accueilli le secrétaire général des Nations Unies. En tenue de mineur, il s'est félicité à la tribune de l'Assemblée que son pays dispose de 200 ans de ressources en charbon. Des provocations qui ne passent pas. Patrick Bialas de l'association polonaise Biomiasto.
La pollution de l'air est un énorme problème en Pologne. 33 des 50 villes les plus polluées de l'Union européenne sont en Pologne. Il y a eu beaucoup de projets dans le passé pour produire du charbon propre, mais ça n'a rien donné. Ces technologies n'existent pas. L'avenir, ce sont les énergies renouvelables.
Honte à vous, a résonné de longues minutes dans les couloirs de la COP24.
Véronique Rebérotte à Katowice, en Pologne. Le temps de ce mardi, du soleil au sud, la plus grande partie de la journée, un temps plus variable au nord où le ciel sera gris et bas ce matin avec un peu de bruine près de la Manche, quelques flocons vers l'Auvergne et le Jura. Dans l'après-midi, le ciel laissera percer quelques éclaircies. Les températures, elles baissent tout doucement. Il fait ce matin entre moins 2 et 0 degrés dans le centre-est. Ailleurs, comptez de 1 à 11 degrés ce matin, de 4 à 15 du nord au sud cet après-midi, oui.